Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieu, avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau et avec celui que Ali appelle sur WhatsApp ce matin, le Fred bienveillant. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai changé.
C'est vrai?
J'ai changé. Fred Weiss. Contact de ces tennismen. Ouais, ils sont tout doux, ils sont tout mignons.
Alors, on dirait des visions d'ours. Envie de faire des câlins. Tennismen ou tenniswoman en face. S'il avait vu Bartoli Corner en face, il n'aurait pas changé, tu vois.
En fait, je pense qu'on l'a dompté finalement. On a réussi à dompter le Mustang sauvage.
Alors, pour vous dire la vérité, je pense que vous m'avez endormi surtout. Et c'est ça qui est le plus dangereux.
Est-ce qu'on a le droit de dire ce qui se passe quand les micros sont éteints?
Bah, évidemment.
Ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Parce que pendant la pub, Fred Weiss a dit: bon alors, quand est-ce qu'on s'embrouille?
Ouais, ça vaut un petit peu. En fait, l'émission est trop bienveillante et ça me pousse à l'être aussi.
On va taper sur le tennis en un instant.
La Formule 1, c'est pas ton truc, le rugby, c'est
pas le rugby, je l'ai dit, je me mets au rugby de plus en plus grâce à ces
équipements.
Des questions, des sujets qui sont posés, qui sont pas propres au débat.
Tu
parles
de faire la Coupe du Monde féminine, la qualité des questions qui t'inspire, par exemple.
Julien Beneteau vient de critiquer le présentateur et le conducteur. Merci Marie-Lou, notre réalisatrice en régie, de couper le micro de Bennett jusqu'à la fin de l'émission. Évidemment, ça se passe comme ça. Fred, on l'a pas dit, mais les Françaises ont gagné leur deuxième match à la Coupe du Monde féminine en basket. Hein, oui. Donc elles sont qualifiées en quart de finale.
Deux matchs, deux belles victoires. La Corée, c'était pas facile, mais deux matchs, deux belles victoires. On est qualifiés pour les quarts de finale. Ça doit faire bizarre à des tennismans en face de moi.
C'est vrai que la Corée du Sud,
c'est
un débat un peu croustillant.
La Corée du Sud sur la planète basket féminine fait figure d'épouvantail.
Alors ça non, je suis d'accord avec toi, mais c'est une Coupe du Monde.
Ouais. Ça y est, petit à petit, comment ça s'énerve.
Mais ils vont réussir à m'énerver finalement.
On va titiller.
Dans un instant, on va parler tennis. Arthur Géa sauve-t-il le bilan français en Grand Chelem cette saison? Yeah, on a un Français en deuxième semaine pour la première fois cette année.
Tu peux me refaire la vie.
Yeah, en huitième de finale à l'US Open. Bah oui, c'est aux États-Unis, cowboy et tout. Tu vois le délire, quoi.
Ah ouais.
Franchement, c'est nul au départ, mais expliquer, c'est nul aussi.
C'était juste nul. Dernier représentant tricolore, on écoutera sa punchline. En fin d'émission, participez au jeu du sport. Remportez votre cave à vin, doux silence de la sommelière. Je rappelle, ça vous permet de conserver vos meilleures bouteilles à bonne température en plus. C'est ça qui est quand même agréable. Et le servir en des conditions idéales. Hein, des conditions idéales pour remporter votre cave à vin, la sommelière. Appelez le 32-16, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord sur le ring, je vous laisse le choix, tiens. En top 14, ce soir, c'est le retour du grand méchant loup ou du super champion?
RMC, le ring des GG.
C'était le joyau.
Tout le monde s'inquiète de savoir si Toulouse est bien, Toulouse est premier.
De notre empire.
Je suis un sélectionneur qui a énormément de compétences.
Et vous ferez mieux de vous inquiéter de ceux qui ne sont pas qualifiés.
Un lieu de corruption.
On a dit que je n'avais pas d'expérience à ce niveau. C'est vrai, j'ai plus de 40 ans que je suis dans le rugby, effectivement.
Et de lutte pour survivre.
Moi, le rugby de ces derniers mois-là me fait un peu chier.
Les gens affluaient vers ce lieu.
Vous savez que ça s'appelle du harcèlement.
Mais malgré notre puissance.
C'est mon coach antidouleur. Il est aussi efficace que naturel. Et ça, c'est important.
Nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore.
Je serai vraiment apaisé lorsque les gens qui m'ont fait souffrir comme ils l'ont fait souffrent à leur tour.
Ça me fait toujours plaisir de réécouter Guy Noves, hein. Ça nous rappelle quand même les.
Qui m'a attaqué à la porte, là, en l'occurrence.
Bon, voilà, bah écoutez.
Son meilleur ennemi.
Alors, on a écouté. Et on a toujours de belles histoires avec le rugby. C'est la rentrée pour l'ogre français. Le Stade toulousain se déplace ce soir à La Rochelle, 21h05, hein, pour débuter sa campagne de top 14. C'est à vivre en direct sur RMC. Toulouse vise un cinquième bouclier de Brennus consécutif. Ce serait inédit. Ce qui l'est aussi, c'est sa nouvelle condamnation il y a quelques jours devant la commission d'appel de la FFF. Pour infraction au salary cap, amende de 2,7 millions d'euros. Le club se réserve encore le droit de porter l'affaire devant le CNOSF, mais il y avait eu déjà des sanctions lors des années précédentes sur les transferts de Colby ou de Jaminet. Les GG, je vous pose la question ce matin. L'image du Stade toulousain est-elle durablement écornée? Vous avez été nombreux à vouloir participer hier à ce débat qu'on vous propose du coup aujourd'hui. J'ai deux oui, Christophe, non. Et Sarah, petit oui.
Non.
Oh là là, mais il change tout le temps, c'est incroyable.
Non, je t'ai pas répondu en fait. À la...
Ah, mais on en a parlé
c'est
hier.
Encore pire, c'est encore pire. Pire.
Insupportable. Ah
bon. Qui deux mots ne consent pas.
Bennett et Fred. Non, mais
ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu poses la question hier à 15h, après je réfléchis au truc, et voilà. Donc,
donc en fait,
et
donc,
après,
en
fait j'oublie. Voilà,
je suis désolé, j'ai pas de conviction.
Non, j'ai pas de conviction comme ça, naturellement. C'est un truc auquel je réfléchis. Excuse-moi de réfléchir pour préparer l'émission.
Moi, je reste sur mon oui.
Mais pas ça, parce que tu réfléchis pas aux questions.
J'ai hâte du programme de campagne de Christophe.
Mais j'ai envie de mettre sur le c'est focal.
Sur le compte X des GG du sport, vous dites non à 59% pour vous. L'image du Stade Toulousain n'est pas durablement.
Non, mais tu as demandé le département de ceux qui ont voté ou pas?
On va voir. Venez au 32-16 et sur WhatsApp.
C'est pour ça.
Tiens, Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, il a l'impression de devoir défendre l'image du club en ce moment?
Pas la sensation d'avoir défendu le club ni commenté trop cette période-là. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la sensation que c'est un raccourci trop facile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées sur le terrain par le travail de nos équipes. Je trouve que c'est des raccourcis un peu faciles, mais les esprits courts, j'y pourrais rien. Mais par contre, j'aime bien quand même expliquer... Parce que la règle du salary cap, quand j'entends certains médias en parler, quand j'entends un peu l'opprobre permanente sur nous, en laissant penser que même à, encore une fois, sur la capacité à nous battre, mon job, c'est le sportif, et je peux vous assurer que le staff, les joueurs, s'engagent, s'entraînent. Peut-être qu'on sera pas bon. On lâchera pas le fait d'être des personnes qui s'engagent pleinement pour le club qu'ils représentent.
Voilà, Hugo Mola, hein, qui a donné une interview en début de semaine, midi olympique, voilà, où il y a quand même une idée quand même de défendre un peu l'institution attaquée cet été. Sarah, tu défends le oui toute seule,
oui,
du coup.
Oui, écorné à l'heure où on se parle quand même un petit peu.
Oui, parce... mais c'est durablement le
oui,
le
truc. Mais
écorné, oui, mais pas durablement.
Moi, j'essaie d'aider l'émission. J'essaie d'être un peu corporate. Ouais. Donc, sur ce coup-là, quand on est sanctionné 5 fois en 3 ans, je pense que quand on représente Toulouse, qui est quand même le club au sommet qui représente quand même un exemple, c'est-à-dire que Toulouse à différents niveaux, que ça soit sur le plan de l'équilibre financier, que ça soit sur la formation, Toulouse a toujours été présentée comme un exemple. Et là, bah, il y a quand même une petite écorchure dans le tableau si propre et où tout est parfait du côté de Toulouse. Et c'est pas une fois, c'est 5 fois. Alors, on va pas rentrer dans les
avec
détails,
les condamnations en appel et tout ça. Hein.
Mais on va pas rentrer effectivement, comme le disait Hugo Mola, dans les détails, peut-être que sur ce salary cap, il y a plein de choses à faire.
C'est l'image, en fait. Qu'est-ce que ça nous dit?
Quoi qu'il arrive, je pense que c'est la répétition aujourd'hui de ça qui fait que, oui, c'est un petit peu écorné. Et à force de dire que le modèle du rugby, c'est Toulouse, mais Toulouse n'a quand même pas suivi toutes les règles. Alors, écorné... En tout cas, il est fragilisé, certainement pas sur le plan sportif. Il est fragilisé sur le plan d'image auprès des observateurs du rugby et des supporters adverses, hein, forcément, parce que tout le monde s'engouffre là-dedans. Mais sur le plan du grand public...
Sur WhatsApp, Christophe, il y a un message pour toi. Bien sûr que l'image de Toulouse est écornée, sauf qu'ils ont un gros avantage dans la presse. Regardez, monsieur Christophe Cessieux, qui n'ose plus donner son avis.
Mais attendez. Qui retourne à la plage où il veut.
Moi, j'ai un peu changé d'avis.
J'ai le droit de m'exprimer.
Ben oui,
quand on dit écorné, quand on parle de club dont l'image a été salie par le passé, vous pensez à qui? On pense forcément à l'Olympique de Marseille.
Bien sûr.
L'affaire OMVA.
L'OMVA. Là, l'image a été écornée pour longtemps. Je pense qu'encore aujourd'hui, notamment les supporters parisiens, rappellent cette affaire. Mais c'était quand même beaucoup plus grave que ce qui s'est passé pour le Stade Toulousain.
Mais aussi, Christophe, parce que les sanctions sportives avaient été beaucoup plus importantes, donc plus impactantes aussi pour le grand public, peut-être.
L'arrêt de regardation. C'était quand même acheter des joueurs.
Non, mais bien évidemment.
Mettre les sous dans.
Complètement.
Il y avait de la.
C'est la corruption.
Corruption totale.
Mais
donc l'image
là,
de Marseille
gardé.
A été longtemps écornée.
Et encore
un peu, mais beaucoup moins. Autre club qui avait été comme ça, qui avait été pris la main. Dans le pot de confiture, c'est Saint-Étienne, avec la fameuse caisse noire de Saint-Étienne. Et ça, qui s'en souvient aujourd'hui?
Ah, moi, je m'en souviens pas.
Bon, alors, c'était il y a 20-30 ans. Donc, ça veut dire que. Et longuement écorné, tu veux dire ça sur combien d'années?
Mais sur, Je te dis, ma réponse c'est durablement.
Durablement. Donc ça veut dire jusqu'à la nuit des temps. Mais tu penses que le Stade Bollier va traîner cette histoire?
Moi, je pense que oui. En fait, j'ai un petit peu changé d'avis. Alors non pas que Sarah était très très bonne dans ce qu'elle a expliqué, mais par contre, il faut quand même réfléchir à la réalité. Quand on pense au Stade Toulousain, on pense à un club immaculé quasiment.
Exactement.
C'est-à-dire qui ne commet pas d'erreur, qui sportivement est parfait, qui fait de la formation.
En gros,
c'est l'exemple.
C'est l'image peut-être que tu as aussi.
C'est quand même, moi, c'est pas l'image.
Non, mais c'est l'image grand public peut-être pour celui qui suit pas.
Je parle d'image grand public, Christophe. Et c'est vrai que quand je me rends compte que ce club, alors, j'expliquerai pas les conditions de ce salariat qui sont parfois très compliquées et on sait pas exactement où on en est. Mais de l'extérieur, ce qu'on sait, de l'extérieur, c'est que ils ont triché. Donc d'un seul coup, on a ce club qui est fantastique, peut-être un des plus grands clubs de sport en France, qui descend de son piédestal. Et surtout, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Les supporters, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans tous les stades où ils vont aller, la première image, ah oui, c'est le club qui a triché.
Les supporters adverses, tu veux dire.
Vont continuer à considérer que le Stade français, le Stade Toulousain a triché. Donc, moi, je pense que ça peut s'inscrire dans la durée.
Parce que, j'ai pas entendu de cris hostiles au Stade Toulousain.
Mais pourquoi?
Mais parce que c'est les stars de l'équipe de France. C'est toute l'équipe de France.
Il y a ça, mais pourquoi les supporters toulonnais, ils vont dire quoi?
Oui, mais c'est
comment ils font les supporters du Racing, ils vont dire, enfin il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais ils vont faire quoi?
La
ligne, elle est très ténue. Tu sais pas comment certaines stars étrangères sont payées par les clubs.
Mais ça, nous on sait que c'est compliqué. On sait même pas s'ils ont triché parce qu'ils vont faire appel certainement, etc.
Est-ce que tu as entendu beaucoup de présidents adverses au Stade Toulousain balancer?
Non, parce que je pense que comme toi, que tout le monde le fait. Je pense comme vous que tout le monde le fait.
Attention,
l'image immaculé de cette
tout le fait, on n'a pas les infos hein.
De ce club, non j'ai dit je pense, j'ai pas dit que
c'était
en fait quand on est de l'extérieur on a l'impression que ce club qui est encore une fois un exemple pour les clubs en France dans tous les sports, et ben d'un seul coup ils descendent un petit peu de leur
rang
ça peut être sur la durée ça quand même.
Je sais même pas si les autres présidents ils considèrent ça comme de la triche de la part du Stade Toulousain, tu vois.
Alors Laurent Marty cette semaine était chez Vincent et il a expliqué que lui il jouait pas du tout avec la règle et que chaque centime était compté et que il trichait pas du tout.
Mais j'espère pour lui que c'est le cas parce que si ça lui tombe sur le coin de la figure, ça va être compliqué.
Tiens, j'ai plein de messages sur WhatsApp évidemment des deux côtés, c'est un débat qui agite énormément évidemment quand les supporters toulousains.
Tu touches au Stade Toulousain là, tu vas avoir toute la communauté toulousaine qui va tomber dessus chaque fois que tu dis un mot de travers sur Toulouse, là ils se réveillent comme une masse parce que ça c'est un vrai club avec ses supporters et ils ne supportent pas qu'on touche à l'image immaculée, vous en parliez tout à l'heure.
Ah bah je sais pas, Xavier au 32-16 supporter du Stade Toulousain, ça va, bienvenue dans les GG.
Bonjour les GG.
Bon, mais tu as entendu la sortie de Christophe il y a un instant, on peut pas en parler, l'image et tout ça.
Alors si on peut en parler, mais moi je suis absolument. Alors vous allez dire que c'est parce que je suis toulousain, mais pas que. Pour moi, l'image est absolument pas écornée pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, le grand public, lui, ça va pas le concerner. C'est vraiment les supporters des autres équipes qui vont avoir un sentiment biaisé. Mais le grand public, lui, va pas être touché.
Je suis pas d'accord avec toi déjà, parce que moi, je suis parti du grand public.
Fred, si je peux pas intervenir, si tu veux, c'est pas la peine que j'intervienne.
Si je peux pas te répondre, surtout. Mais attends,
j'ai encore
dit,
je te laisse parler.
De quoi
tu parles? J'ai pas encore donné un seul argument.
Vas-y, Xavier.
Je suis d'accord.
T'as tout compris, Xavier.
Pas d'argument.
Donc le budget du Stade Toulousain est encore en augmentation cette année. Donc ça veut dire que des sponsors extérieurs sont prêts à encore investir sur le club. L'image n'est pas écornée. Les affaires juridiques, on nous met à chaque fois en face qu'on a triché X fois. Jusqu'à preuve du contraire, Le Cheskin Colby, c'était pas un problème de salary cap. Melvin Jaminet est le seul sujet sur lequel on a été condamné. Et la Ligue a elle-même été obligée de revoir les textes de son salary cap pour pouvoir, par exemple, que Louis Bielbarré puisse continuer à jouer à Bordeaux, parce que les choses n'étaient pas claires. Et c'est là-dessus que se bat Toulouse, c'est sur l'interprétation des textes. Tant que tu fais pas une règle qui est claire, il y a un problème. Et puis encore une fois, quand celui qui accuse est en même temps le juge, il y a un petit problème d'équité morale et sportive.
Tiens,
donc pour le grand public, ouais, moi je pense que le Stade Toulousain, comme dans les jeux télévisés, quand vous avez une équipe qui est là, qui est présente en permanence depuis longtemps, qui gagne, qui domine, eh ben les gens ont envie de le voir, veulent le suivre, veulent continuer à le voir gagner. Et les haters ou ceux qui sont opposés vont vouloir faire quoi qu'une seule fois, c'est regarder pour le voir suivre. Donc ça ne peut faire qu'une seule chose, c'est bénéfique, puisque la publicité est bonne, qu'elle soit mauvaise ou positive.
Ouais.
Toute publicité
Xavier,
est bonne.
Xavier, pour toi, il n'y a eu aucune faute de commise par le Stade Toulousain.
Après, celle de Melvin Jaminet.
Mais il y a eu des condamnations. Voilà, il y a eu des condamnations.
Mais juste, ça, c'était une dimension. C'était pas une dimension financière, c'était une dimension judiciaire. C'est pas tout à fait la même chose.
On a l'avis d'un Toulousain. On veut l'avis d'un castré maintenant qui est avec nous, supporter des Castres Olympiques. Geoffrey, salut, bienvenue dans les GG.
Salut à tous. Un gros big up à Fred que. Je suis sur Insta, on se sait, papa d'enfant autiste, on se connaît. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que dit le supporter toulousain, mais on a un peu l'habitude de ces raisonnements. On va parler du plan judiciaire, je veux dire. Ça fait trois fois qu'ils sont condamnés. Alors effectivement, il y a eu que Jaminet pour l'instant parce qu'il y a des appels.
Mais oui.
Mais à la fin, quand tu acceptes de payer une sanction, ce qui a été le cas la dernière fois, là ils savent pas s'ils vont faire appel, pas appel. Il y a beaucoup de communication. Moi, je vous donne ma main à couper qu'il n'y aura pas d'appel et qu'ils vont payer les 2,7 millions. Quoi qu'il en soit, ça fait trois fois qu'ils se font attraper. La vraie question est la seule qu'on doit se poser. C'est est-ce qu'il y a un système derrière tout ça? Parce qu'il s'est posé la question avec Colby, il s'est posé la question avec Jaminet, il s'est posé la question avec Dupont, il s'est posé la question avec Jelon. Donc ça fait quatre joueurs où on se pose la question. À Dax ou à Grenoble, ils ne se sont pas posé la question.
Mais pour toi, c'est l'image, elle est cornée, donc pour toi, durablement. Pour toi, il y a...
Aller dans tous les stades de top 14. Moi, je suis namurien, hein, donc j'ai longtemps été un grand supporter de Toulouse aussi. J'ai longtemps supporté cette équipe et adoré le jeu à la Toulousaine tant que c'était mauvais. Maintenant, ça m'intéresse plus. Moi, ce bling-bling, ce pognon, 67 millions d'euros de budget. Moi, j'aime le rugby. Je vais voir des matchs de série. Je me régale à aller voir Royer. Je me régale à aller voir du rugby.
À cause de tout ça, ça t'avait un peu dégoûté.
Tu regardes pas le top 14.
Mais c'est intéressant.
Tu
veux dire quoi? Non, mais attendez.
Je regarde le top 14. Je suis abonné à CAS depuis 10 ans. Et j'ai même servi là-bas et j'adore le top 14. Mais à un moment donné, cette histoire de pognon, quand t'as un club qui a 67 millions et que t'as le dernier qui a 20 millions et qu'il y a un club qui peut aligner trois équipes où les trois équipes, de toute façon, éclatent le troisième du championnat, moi, je suis pas sûr que ça m'intéresse encore. Si vous, ça vous fait kiffer.
Mais non, mais c'est le problème. Mais non, mais c'est le modèle du sport en France aujourd'hui. Alors la Ligue 1, on fait comment?
Le PSG,
ils ont combien de fois de budget par rapport à Lorient?
Oui, mais en fait, je pense que Geoffrey, ce qu'il dit, c'est l'accumulation. En fait, non, aussi, c'est les histoires qui s'accumulent et du coup, les histoires autour de l'argent. Il faut l'entendre.
Ces clubs qui sont de plus en plus riches et qui en plus essayent par des moyens peut-être un peu détournés de jouer avec la règle pour pouvoir.
Oui, mais quand tu la joues la régulière,
c'est la répétition. Si ça avait été une fois, mais en fait, il y a la répétition qui fait qu'aujourd'hui, on penche un peu la tête en se disant, les mauvais coucheurs, oui, mais enfin, bon, Toulouse gagne, mais bon, ils n'ont pas les mêmes règles que tout le monde, quoi. Ouais.
C'est tellement ça. Quand c'est à la régulière, quand tu as beaucoup de budget, finalement, tout le monde te dit, OK, ils ont travaillé pour avoir ce budget, il n'y a pas de problème. Mais quand, en plus d'avoir le plus gros budget, t'as ces suspicions, encore une fois, j'appelle ça des suspicions parce que pour moi, évidemment, rien n'est prouvé, mais quand t'as ces suspicions, ça t'arrive à l'oreille. Et forcément, tu peux te poser des questions. Et forcément, tu mets en cause plein de choses. Et forcément, ça descend dans ton estime, le club de Toulouse quand tu n'es pas Toulouse.
Le mot de la fin, Chris. Je pense que pour que l'image ne soit pas écornée longtemps, il faudrait que, Toulouse fasse son mea culpa. Toulouse arrête de faire des appels de tous les côtés. OK, c'est bon, on paye, l'amende. On a fait une erreur, peut-être. Elle est peut-être pas aussi grave qu'on le pense. On a fait une erreur. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, on sera plus jamais attrapé parce qu'on va respecter les règles jusqu'au bout. Et on va vous montrer qu'en respectant les règles, on continue à gagner. Et là, l'image ne sera pas écornée.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Christophe.
C'est ça. Communicant pour Toulouse.
Non, mais Christophe a tout à fait raison.
De communicant pour Toulouse.
Mais c'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est hyper intéressant parce que, effectivement, s'ils continuent à gagner et que maintenant ils lavent plus blanc que blanc, ce qu'ils avaient semblait faire jusque-là, et ben on reviendra au Toulouse est énorme, Toulouse est incroyable.
Mais regarde les propos d'Hugo Mola, ils sont pas là-dedans. Ils ont payé, hein, les 2 millions 8 ont été payés. Hugo Mola, c'est.
Il va même s'en servir pour motiver encore plus son équipe. Mais ça, c'est la tradition à Toulouse. Novès faisait la même chose.
On ne peut pas réduire Toulouse à c'est les meilleurs parce qu'ils trichent, etc.
Non, ils ont un pouvoir d'attraction.
C'est un club aussi formateur. Sur les 4 dernières années, ils ont gagné 2 fois le championnat de France des Crabeaux, 2 fois le championnat de France des Espoirs. Donc il y a quand même un travail qui est fait de fond par le Stade Toulousain qui fait qu'ils sont hyper attractifs.
Réponse du ring, l'image du Stade Toulousain est-elle durablement écornée? Vous dites non à 59%.
Et Alizé, pense quoi?
Alizé Cornet.
Voilà.
Excellent. Je remercie Xavier et Geoffrey d'avoir été avec nous.
Merci, c'est 32-16.
Tu t'es fait un peu écorné sur ce débat. C'est bien, ça va te faire du bien. Enfin, du coup, c'est ce que tu voulais. Toulouse se déplace à La Rochelle ce soir, 21h05, à vivre sur RMC, évidemment, pour la reprise de la saison pour les quadruples champions de France en titre. Dans un instant, on parle tennis. On a un Français en deuxième semaine pour la première fois de la saison. C'est Arthur Géa. On en parle dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On salue Olivier, un de nos auditeurs, qui nous dit merci les GG de m'avoir accompagné pour mon premier 10 km au Trocadéro. On vous accompagne, hein, franchement, hein, on le sent. Dites-nous un peu les performances, là. Si Fred Weiss, quand il vous énerve, il vous fait aller 2 km par plus vite. Ça doit marcher normalement.
Ça doit marcher.
Là, il faudrait un punching ball plutôt. À la salle de boxe, je suis sûr que si tu mets la tête de Fred,
Mais t'es hyper violent, toi.
Ouais, t'es hyper violent. Ça m'attriste un petit peu.
Ouais. Bah, ça va pas ou quoi? Avec Julien Beletto, avec Sarah Pitkowski, il t'a tapé. Il t'a tapé. Bon, bah écoutez, si vous pouvez raccompagner Christophe Cessieu à l'entrée, s'il vous plaît. Allez, j'y crois pas dans un instant. Mais d'abord, le tennis. Pour la première fois de la saison chez les hommes.
Ça y est.
Il y aura un Français en deuxième semaine en Grand Chelem. Un Français en deuxième semaine en Grand Chelem, ce ne sera pas Benjamin Bonzi qui a été battu par Karine Khachanov en 3-7 hier, mais Arthur Géa, 21 ans, 87e mondial, venu à bout de l'Américain Zeng en 5 manches. Punchline du Français au micro RMC d'Eric Salio aux États-Unis.
RMC, la punchline GG.
Moi, ça fait plaisir parce que je suis un des premiers qui suis arrivé ici. Donc, moi, c'est ma 3e semaine là, parce qu'on est arrivé une semaine avant les qualifs. Enfin, en vrai, ça ne change rien. Bien sûr, ça fait plaisir d'être le dernier Français, mais. Je préfère être le dernier du tournoi que le dernier Français en course. J'aurais préféré qu'on soit 10 à être encore dans le tournoi, pour être honnête, mais bon, ça fait toujours plaisir d'être le dernier. Voilà, j'espère faire honneur à la France pour le prochain match. Je pense que je l'ai fait là déjà aujourd'hui et je vais essayer de me battre comme un lion et voir ce que ça donne.
Essayer de se battre comme un lion, Arthur Géa, lucky loser, il disait, donc repêché alors qu'il avait perdu au troisième tour des qualifs. Le Français avait gagné cet été son premier titre sur un ATP 250 à Los Cabos. Pardon, excuse-moi, t'as de la famille là-bas?
Ouais. Non, mais on connaît, ça s'appelle Los Cabos.
Ouais. Il affrontera le néerlandais Botik van den Zandschulp en huitième de finale.
Le mec, il a fait un schloup.
Van den Zandschulp.
Non, là, il y a une syllabe entre
eux. Ouais, bon, écoute, hein, on va voir. Les GG, je vous pose la question, s'il vous plaît.
Et pose-la nous.
Arthur Géa. Est-ce qu'il a trouvé une bonne?
Pour une fois, t'aurais pu dire.
Je vais faire l'émission avec Fred et Sarah.
T'as vu, on est bien, hein, nous.
On va donner des bons élèves.
On vous écoute.
Les auditeurs et auditrices attendent le moment où on va taper sur le tennis français. C'est maintenant. Arthur Géa sauve-t-il la saison française en grand chelem? Est-ce que les GG vont taper sur le tennis français? Fred?
Non.
Christophe?
Non. C'est quoi la question?
Elle est bonne ou mauvaise, mais tu l'as pas écouté en fait. C'est ça le problème.
Est-ce qu'Arthur Géa sauve la saison des Français en grand chelem?
Non.
Promis huitième de finale. Non. On n'avait jamais fait huitième de finale cette année. Sarah?
Bah non. Non.
Julien Beletto?
Non.
Oh là là, mais c'est incroyable ça. D'habitude, les tennismans sont plutôt dans l'optimisme. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais non, on est objectif.
Non.
Je rappelle,
les tennismans et l'objectivité.
Non, la semaine dernière, les deux, ils nous disaient quand même que Arthur Fils avait réussi sa saison, quoi qu'il se passe, à l'US Open. Bah,
il va d'ailleurs reçu sur les Champs-Élysées.
On le pense toujours.
On a eu les arguments pour.
Ouais. Je suis désolé, mais une semaine plus tard, vos arguments, ils sont quand même un peu.
Je rappelle. Sa saison est bonne.
On va voir quand il sera au Master.
On va pas refaire tout le bilan d'Arthur Fils. Je rappelle juste le bilan français en Grand Chelem cette saison. Troisième tour pour Corentin Moutet à l'Open d'Australie, battu par Alcaraz. Troisième tour pour Louis Kouamé à Roland Garros. Troisième tour pour Arthur Hinderknecht sur Wimbledon. Et donc, alléluia. Huitième de finale pour Arthur Géa, qui était quand même pas celui qu'on attendait au départ. Mais attendez, donc on peut pas. Il n'y a rien à sauver sur cette saison en Grand Chelem, Bennett?
De manière globale, non. Pour Arthur Gia, là, c'est exceptionnel, c'est magnifique. D'un point de vue individuel, il est lucky loser. Et il a, comme tu l'as dit, il a gagné son premier tournoi cet été. L'histoire, elle est magnifique pour lui. Il se retrouve en huitième de finale. À tous les niveaux, il va remonter au classement encore plus. Financièrement, c'est monstrueux vu les tarifs qu'il y a maintenant, les prêts de monnaie qu'il y a à l'US Open. Donc pour lui, c'est vachement bien. Mais à l'image, enfin, sur un point de vue global, sur les quatre tournois du Grand Chelem qui ont eu lieu, et puis il y a un petit truc qui me chagrine, Georges, dans ta description, c'est que t'as parlé que des hommes.
Et huitième de finale pour Diane Paris à Roland-Garros.
Mais chez les filles, c'est aussi
trois filles dans le tableau
très
final de l'US Open. On n'en parle quasiment pas parce qu'on parle toujours du tennis masculin.
Mais parce que ça finit très vite.
Il y en a eu quatre, parce qu'il y a une wildcard.
Oui, parce qu'il y a une wildcard.
Et donc, il y en a une qui rentre avec un classement protégé, Loïse Boisson.
Oui. Deux qui rentrent avec un classement.
Il y a des déceptions parce que Arthur Fils, Open d'Australie, Roland Garros, il n'a pas joué, mais avec son classement en Grand Chelem, on pouvait attendre. Au-delà d'attendre
au moins un deuxième tour, quoi.
Non, mais on pouvait attendre au moins.
Il a fait, il a passé un tour. Hein,
non, mais on pouvait attendre au moins une deuxième semaine.
À l'US Open.
Ouais. Oui, minimum. Ça, c'est donc là, il y a une déception. D'ailleurs, il le dit, lui, il s'explique pas. Voilà, déception. Et puis, là, je suis content que ce soit Arthur Gia qui en profite parce que de plus en plus sur le circuit masculin, ça devient très ouvert. Pas pour la victoire finale, quand il y a Alcaraz ou Sinner, ce sera toujours. Mais dans les grands chelems. Mais dans les grands chelems aujourd'hui, et là, la partie de tableau d'Arthur, c'est fait parce qu'on parle des autres qui se sont plantés. Mais Ogier Yassim, il s'est planté. Jodar, il s'est planté.
Oui, d'accord. Mais Bennett, pendant des années, on avait au moins parfois un exploit, un coup d'éclat d'un Français qui arrivait à.
C'était pas un exploit.
C'était des mecs qui étaient dans les 10 premiers mondiaux. Et ils se faisaient tabasser dessus parce qu'il y a des jeunes dans un grand chelem.
Personne ne surperforme.
Personne ne
surperforme. Boisson, c'est un exploit.
Exactement.
Qui vient de nulle part.
Et c'est ce que je vais finir. Pendant des années, effectivement. Et ça a été, à un moment donné, moi j'avais tenu ce discours-là auprès d'un président de fédération qui voulait tout remettre en cause dans le système de la formation française, en disant, on n'a pas sorti un champion, on n'a pas sorti un vainqueur de Grand Chelem chez les hommes, c'est un échec, il faut tout revoir. Je dis, attention les gars, regardez Roland-Garros, depuis 8 ou 10 ans, vous avez chaque fois un Français en quart ou en demi. Alors oui, ça ne gagne pas, mais il y avait toujours un Français en quart ou en demi.
Là, il n'y a plus rien.
Et là, il n'y a plus rien. Le dernier Français à avoir dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem, c'est Gaël Monfils en 2022. Non, mais en fait, on s'habitue à.
Non, mais c'est catastrophique. Moi, j'en ai marre. Moi, j'ai découvert l'expression l'arbre qui cache la forêt grâce au tennis, en fait.
Ah oui.
Parce qu'à chaque fois, il y a un petit soubresaut et tout le monde est en train de dire, finalement, on a sauvé la saison. Non, c'est catastrophique. Quand on regarde ça, c'est catastrophique. Alors oui, sur les Master 1000, on a eu Arthur Fils qui a été plutôt très sérieux. Mais malheureusement, pour le grand public, qu'est-ce qui est le plus important?
C'est les grands chelems.
Quand je vois Arthur Fils être aussi bon, parce qu'il a été quand même plutôt très régulier sur les Master 1000, et ne pas le voir performer, ben moi ça me dérange. Quand je vois pas de Français en deuxième semaine, ça me dérange. Et je commence à perdre patience.
Arthur Géa, on est content pour lui, Christophe.
Et Arthur Géa, il gagne son premier tournoi cet été, et je me dis, c'est cool pour lui, effectivement, je suis super content pour lui. Mais les gars, c'est pas suffisant, en fait.
Est-ce que c'est pas presque un peu honteux que ce soit Arthur Gia qui soit le meilleur français cette saison en Grand Chelem?
C'est un lucky loser. Derrière Arthur Fils, on a Hugo Humbert
qui était blessé.
Hugo Humbert,
Moïse Koumé qui arrive.
À part Arthur Fils, on peut espérer de lui, et aujourd'hui, je vais m'avancer. S'il n'y a pas de pépin physique, je pense que...
Normalement, il devrait y arriver.
Maintenant, en Grand Chelem, il va être régulièrement en deuxième semaine. Pourquoi? Parce qu'il est dixième mondial.
Mais est-ce que dans votre sport, on s'alarme, les amis? Est-ce que dans votre sport, dans le monde du tennis, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, souvent, c'est... Bon, ben voilà, c'est comme ça, on a notre place.
Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il est très facile de trouver des excuses. il est extrêmement facile dans le tennis de trouver des excuses en disant mais alors une fois on a un discours fédéral qui dit on est là pour faire gagner, on est là pour trouver un futur vainqueur de Grand Chelem, et puis après, laisse-moi terminer, et après 4 ans après on nous dit non mais attends, la fédération elle est pas là pour former un vainqueur de Grand Chelem, ce sont des sports individuels, nous on les forme jusqu'en junior et puis après le chemin c'est à eux de le faire.
Exactement.
Donc en fait comme on change systématiquement, on se dédouane, de tout.
On a sans doute la fédération l'une des deux ou trois plus riches au monde.
C'est pas sans doute. On est la
nombre de joueurs de tennis en France qui est hallucinant. Dans tous les patelins de France, ça joue au tennis. Il y a des clubs, il y a des bénévoles qui se bagarrent pour essayer de les faire monter. Et on arrive à ce résultat-là. Moi, ça me dépasse.
Mais on a le même constat avec Julien. Alors le tennis, c'est un sport un petit peu en berne. C'est un sport qui est très difficile. Techniquement, il est très difficile. Mais
dans mon petit patelin, tous les cours sont pleins. Toute la semaine, ça joue.
Mais c'est pas représentatif.
Oui, mais c'est pas représentatif.
Dans tous les cas,
il y a la masse. La masse joue au tennis. Donc, de la masse, t'arrives quand même de temps en temps à sortir des mecs qui arrivent au haut niveau, non?
Laisse-moi terminer. Le tennis, de manière générale, c'est un sport qui est un peu en chute. Parce que c'est un sport qui est difficile. Pour les jeunes, jouer au tennis, ça prend du temps. C'est difficile. Il y a de la solitude. Tu perds chaque semaine.
Tu crois qu'au vélo, c'est pas difficile? Dans tous les sports de haut niveau, c'est la même chose, Sarah. Il n'y a pas la spécificité.
Laisse finir, Sarah.
Les sports individuels itinérants, Christophe, c'est pas pareil.
Le vélo, c'est la même chose.
Le ski, c'est la même chose.
Oui,
mais t'es accompagné, t'es encadré. Là, les parents, je peux te dire ce que ça demande aux parents chez les jeunes.
Ouais.
Financièrement, en temps.
Si t'as un boulot avec des horaires, tu peux pas accompagner ton enfant. C'est pas possible. T'es obligé de faire des choix qui sont extraordinaires.
Est-ce que les clubs doivent accompagner leur star?
Laisse-nous juste terminer. La difficulté.
Non, mais ça fait 20 ans que vous terminez. Sarah, vas-y.
La difficulté, c'est que tu dois faire des choix de famille. Il y a des familles qui arrêtent de travailler qui prennent le parti. Alors, on voit ceux qui réussissent un peu, mais on voit pas ceux qui fonctionnent pas. Après, moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de réussir parce que la médiatisation et les réseaux sociaux, aujourd'hui, te font croire que t'es une star alors que t'as gagné deux matchs ou t'es rentré dans le tableau final d'un grand chelem. Et il y a tellement d'argent. Même à un plus bas niveau, c'est-à-dire que quand tu fais juste 4 tableaux de Grand Chelem, tu te prends quasiment 200 000 euros. Et en fait, avec 200 000 euros, tu penses que t'es un bon joueur de tennis. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, tu peux devenir une star influenceuse et on t'invite partout dans les tournois, mais t'as pas gagné 2 matchs d'affilée. Et jouer au tennis, c'est comprendre que tu perds plus que ce que tu gagnes.
C'est quoi la solution de 1 et de 2? Pourquoi dans notre pays, c'est comme ça et pas ailleurs?
OnlyFans, et là, d'un seul coup.
Pourquoi ça? Alors, ce que t'expliques sur le fait que ça soit dur.
Mais si on avait une solution, on l'aurait trouvé très facilement.
D'accord,
tout le monde l'aurait trouvé.
Mais c'est une vraie question. J'ai pas de jugement. C'est une vraie question. Je me dis, pourquoi tu es en train de m'expliquer ça sur les Français et qu'il y a d'autres qui performent?
Non, et tu sais quoi, les Américains là, il y a Team qui vient de gagner. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas d'Américains en huitième de finale aussi.
Et qu'ils n'ont pas de vainqueur à l'US Open depuis 2003.
Et ils n'ont personne à l'US Open aussi.
Ouais,
donc
échelle,
il
ne
faut pas penser.
Oui,
à leur échelle, c'est catastrophique.
Non, mais c'est une vraie question.
Non, mais. C'est très dur de répondre là en 5 minutes au GG parce qu'il faudrait avoir développé plein de choses. Moi, sur ce qu'a dit Sarah avec de l'émotion à la fin dans sa voix et dans il y a beaucoup de parts de vrai où en fait après le rôle de l'entourage dans le tennis français quand tu sors des juniors et que tu commences à être sur le circuit et que chaque semaine tu perds et qu'à un moment donné tu vas te qualifier en grand chelem et tu vas prendre un peu des sous, le rôle de l'entourage, les entraîneurs que toi tu payes, le discours qu'ils doivent avoir en termes de motivation, de travail, c'est très compliqué à faire parce qu'ils sont payés par les joueurs, donc la remise en question, etc. Et
cette relation avec l'entraîneur est très compliquée.
Non, mais attends, c'est partout ailleurs. Sauf que, à un moment donné, peut-être que, dans un certain système qu'on a connu, on était éduqués. On était éduqués sportivement. On était éduqués sportivement pour ne pas réfléchir à court terme et essayer d'aller le plus loin possible. Et on a eu des résultats. On n'a pas gagné le grand chelem chez les hommes. Chez les femmes, on en a gagné. Mais chez les hommes, on n'a pas gagné. Mais on a eu des résultats dans le sens où chaque génération, la fédération sortait des joueurs. Chaque génération, chaque année, il y avait des joueurs qui étaient issus du centre de la formation fédérale.
Et du coup,
ils faisaient une carrière. Et on a banalisé ça. Alors que c'était le rôle de la fédération et qu'aujourd'hui, la fédération, on n'éduque plus nos jeunes comme on devrait.
Vous savez quoi? On va continuer d'en parler parce que ça vous fait discuter. C'est un gros sujet. Il y a plein de messages sur WhatsApp là sur le tennis, le fonctionnement. Justement, on dit il y a qu'un Français en huitième de finale d'un grand chelem. C'est Arthur Géa cette année en US Open. Donc chez les garçons, il y a eu Diane Paris chez les filles. Mais voilà, il y a beaucoup de messages aussi sur le fonctionnement au quotidien. Vous avez envie d'en parler? Eh ben les grandes gueules du sport, c'est ça. On fait de la place aux débats qui font parler dans les GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, vous savez, on poursuit le débat quand le débat le mérite. On est avec Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Christophe Cessieux. On était en train de parler de Arthur Géa, qui est en huitième de finale de l'US Open, le seul Français en huitième de finale de l'US Open, en grand chelem, cette saison chez les garçons. Est-ce qu'il sauve le bilan français? On est parti sur un débat un peu sur le fonctionnement du tennis français. Justement, est-ce que ça tire pas aussi une petite sonnette d'alarme sur le fonctionnement général qui fait qu'on en arrive là? Tiens, j'ai plein de messages, sur WhatsApp et venez d'ailleurs témoigner au 32-16, Nico qui me dit, je suis d'accord avec Bennett et Sarah, la licence pour mon fils de 7 ans, 486 €. Et pourtant, les coachs disent qu'il est au-dessus des autres à son âge, gaucher. Mais j'ai 4 enfants, je ne peux pas payer la licence de mon fils. Donc voilà, on parle des difficultés aussi au quotidien pour construire les champions de
c'est l'adhésion.
L'adhésion et peut-être que ce que le club lui propose en termes d'entraînement.
Ouais, Bertrand parle des tarifs des tournois, les parents ne peuvent pas suivre tout le temps. Mais voilà, dans la difficulté. À construire ça. On le voit pas dans le foot, dans le basket, c'est un peu plus simple, justement, quotidien.
C'est moins cher. Déjà, c'est beaucoup moins cher. C'est plus facile de payer une licence. Quand tu fais la licence, tout est fourni. Ouais. T'es en équipe, t'es rassuré aussi. Et moi, je vous rejoins sur les déplacements. C'est beaucoup plus dur sur des déplacements dans votre sport que nous, parce que nous, à chaque fois, on est entouré, on a l'équipe et on a.
Aujourd'hui, les filles, de laisser partir sa petite fille.
Ah ben, je comprends tout à fait.
De manière individuelle. Avec un coach masculin, on a aussi eu d'énormes dérives qui font qu'aujourd'hui, il y a un côté de frilosité de se dire bah, je garde ma fille à côté de moi.
Ouais. Pendant la pause, vous disiez des choses très intéressantes sur l'encadrement, en quelque sorte, du tennis français. On a eu. Je me rappelle les meilleurs entraîneurs du monde.
On a été copiés
par le monde entier et le coaching à la française c'était quelque chose. Aujourd'hui, on en est où? Où sont passés tous ces coachs qui ont amené Mauresmo, qui ont ensuite entraîné les meilleurs mondiaux, même s'ils n'étaient pas français. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que on leur laisse les coudées franches?
Non, mais il y a certains entraîneurs qui ont quitté le giron fédéral pour différentes raisons. Ça, c'est une première chose. Ensuite. On a certains entraîneurs français qui ont eu beaucoup de résultats sur le circuit international, mais avec des joueurs étrangers. Je pense à Gilles Cervera avec Daniil Medvedev. Je pense à Jean-Christophe Forel qui est avec Coco Gauff. En plus, Jean-Christophe Forel, il est de ma génération. Il a été 150e mondial au mieux dans sa carrière, mais il est issu de la formation fédérale.
Et ça, la fédération française n'a pas réussi à le garder dans son giron.
Il a été entraîneur à l'INSEP, il a été entraîneur au CNE à Paris, je sais pas, mais en tout cas, il a été entraîneur à l'INSEP. À l'époque, ça aussi, poser une question. À l'époque, on avait l'INSEP. La fédération, à un moment donné, a décidé de fermer l'INSEP. Donc, on se coupe. Dans la chaîne de construction de filières vers le haut niveau entre les pôles France 13-14 ans et le CNE de Paris ou le CNE Centre National d'Entraînement de Paris, le pôle France de Paris où c'était destiné plus aux 17-18 ans, on avait un filtre avec l'INSEP où on était nombreux. Il y avait aussi le.
Toi, t'es passé par là.
Bien sûr.
Ta filière.
Bien sûr. Mmh. Et quand je disais que chaque génération, à un moment donné. Mais moi, j'étais à 15-16 ans, j'étais pas le meilleur Français. J'étais 6e ou 7e de ma génération. Mais si j'ai pas l'INSEP avec 10-12 joueurs de ma génération qui sont entraînés à ce moment-là, je retourne à Bourg-en-Bresse et je peux pas m'en sortir.
Ouais.
Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus cette masse d'entraînement.
Et pourquoi
de
ça a été
des choix politiques. À un moment, on s'est dit.
On a pris que des mauvais choix ces dernières années, en fait.
On a voulu faire des pôles. On a voulu faire des pôles. Après, on dit oui, mais les enfants, ils ne veulent plus venir en pôle parce que c'est loin, parce que c'est dur. Alors, on va ouvrir un pôle France féminin à Poitiers, puis après, on va le fermer. Mais en fait, comme on ne garde pas une sur la longueur, une politique, eh bien, en fait, on a passé notre temps détricoté parce qu'on était un exemple au départ. Et puis, finalement, gens et les autres pays travaillent et trouvent des
filières différentes. Nos auditeurs parlent des Italiens, des Espagnols.
Et donc on a voulu copier, puis on a détricoté, puis après on veut redricoter. Mais une chose est sûre dans le tennis. Quand on parle d'éducation, c'est un sport qui est très difficile. Ouais. Quand je parle de solitaire ou de solitude, c'est compliqué. Mais l'émulation, elle est indispensable. Donc quand tu t'entraînes de ton côté, toujours avec ton entraîneur, où il te dit t'es la plus belle, t'es le plus beau, tu joues bien. Mais si tu te confrontes pas aux autres, c'est pas le circuit en fait. C'est pas le circuit quand tu pars 35 semaines et que tu dois affronter la défaite toutes les semaines. Donc en fait, il faut se construire. C'est pas se construire en disant ah tu frappes bien ton coup droit, tu frappes bien ton revers et t'as fait 2 heures de préparation physique. Donc en fait, l'épaule permettait
d'être confronté à des gens de ton âge, de savoir où tu es réellement.
Mais votre coup de gueule, là.
T'as des gens qui sortent très vite parce qu'ils arrivent à s'appuyer.
Mais personne ne l'entend, ça. Dans le monde du tennis, dans le monde du tennis français, là, ce que vous nous dites, c'est un discours qu'on entend beaucoup ou qu'on n'entend pas assez?
Je sais pas du tout.
Vous êtes dedans. Non, mais c'est vrai.
On n'est pas dedans.
Les décisions, c'est-à-dire que quand t'es dans un groupe, dans un pôle,
dans le monde.
T'as des niveaux d'évolution et de maturité différentes. Moi, j'étais la plus petite, je grandissais pas. J'étais à l'INSEP, mais je me faisais battre toutes les semaines. Mais comme je montrais que j'avais très envie, on m'a donné ma chance d'aller au CNE.
Oui, t'es pas le meilleur, mais on t'a laissé des chances. Alors qu'aujourd'hui, si t'es pas le meilleur ou le deuxième meilleur, tu jartes, tu dégages.
En fait, la sélection fait trop tôt, c'est ça ?
T'as une chance au tirage, t'as une chance au grattage.
Ce que je veux dire, c'est que ce constat-là que vous dites tous les deux, j'imagine qu'il est partagé par d'anciens joueurs comme vous, mais qui sont passés par le même genre de filière.
Oui.
Avant.
Oui. Pourquoi vous n'êtes pas suffisamment nombreux aujourd'hui à pouvoir tirer la sonnette d'alarme et faire avancer les choses?
Parce qu'on est un sport individuel et qu'on pense individuellement. Ouais. Voilà. Et que chacun voit
midi à sa gueule.
Donc on va continuer à aller dans le mur. On va continuer à aller dans le mur, sauf s'il y a une pépite qui sort comme ça, de son côté, comme Arthur Fils.
C'est pas un père comme le père William.
C'est la formation fédérale.
Arthur Fils, il fera son chemin. Mais derrière Arthur Fils, on devrait avoir 5-6 joueurs qui sont dans le top 50 entre 22 et 23 ans. Et c'est parce que tout le monde s'appuie qu'on va faire monter la base.
Exactement.
Mais là, en fait, on a des Marion Bartoli ou des Marie Pierce ou des Amélie Mauresmo. On les aura toujours. Mais en fait, pour avoir ces gens-là, il faut qu'on ait une base aussi.
Exactement.
Et cette base, on n'est plus capable de la construire.
Si on réalimente pas la base, on n'arrivera pas à ressortir plus haut, plus fort.
Hyper intéressant, évidemment, ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, quand tu auras d'en parler dans les grandes gueules du sport.
Parce qu'il y a un vrai coup à jouer pour aller en quart de finale.
Exactement, face à un Irlandais pour aller en quart de finale. Mais ça ne doit pas empêcher, effectivement, de parler des problèmes de fond. Et c'est aussi le rôle des grandes gueules du sport de le faire. Les amis, Sarah, je sens que tu es en grande forme. T'es en grande forme, non? Pour te redonner le moral. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Parce que c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de rentrée. Je vous rappelle, on va faire tourner la roue pour savoir l'argent que l'on va ajouter. Sarah, vas-y, tu peux tourner la roue parce que sinon on en a pour 5 heures. Donc on va voir ce que l'on rajoute désormais. Je rappelle, la cagnotte actuellement est de 47 125 euros. On va rajouter Sarah, on va rajouter 1000 euros. Sarah rajoute 1000 euros, donc désormais la nouvelle cagnotte est de 48 125 euros. 48 125 euros, vous le notez bien, la prime de rentrée RMC. Vous participez en envoyant prime au 732-16. Prime au 732-16. Et quand on vous appelle, si vous passez à l'antenne, vous devez donner le chiffre exact de la prime RMC. 48 125. Donc désormais pour cette prime. Allez, les grandes gueules du sport, on revient dans un instant. On va parler foot, on va parler également de leadership dans le vestiaire. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.